At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Salut à toi, bienvenue à Phoenix Podcast. Aujourd'hui, moi et mon associé, pour l'épisode numéro 9, on vous parle des aliments transformés. On va vous parler, dans le fond, de déconstruire les mythes au niveau de l'alimentation, le calorie in, calorie out et la qualité des aliments que vous allez consommer. On va vous démystifier aussi c'est quoi un aliment semi-transformé, transformé et ultra-transformé. On vous parle aussi des additifs chimiques à l'intérieur, tout ce qui est approuvé par Santé Canada et des potentiels dangers sur la santé. Et aussi, on va vous parler de comment être capable de faire des choix sains, de faire des choix qui sont moins transformés au niveau de l'alimentation et nos conseils face à ça. Et aussi, on va vous parler d'études de cas et on va partager plein d'études, plein de preuves. Ça va être vraiment trippant, fait écoutez ça. Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie.
Salut à tous, bienvenue dans le podcast numéro 9. Je suis avec mon associé Jérôme.
Salut,
pas
salut.
Mal tous les podcasts. Comment ça va, Jay?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on parle des aliments transformés. C'est un sujet qui est large parce qu'il y a plusieurs types d'aliments transformés. On va essayer de décortiquer ça du mieux possible, le plus simple possible. Puis au début, justement, je voulais décortiquer une espèce de mythe dans le sens qu'on entend souvent parler des ce qui est calories in, calories out. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça, puis probablement beaucoup de personnes qui écoutent. Et le concept est tout à fait vrai, dans le sens que quand on parle, et là, je veux juste donner un lien sur la perte de poids, quand on veut perdre du poids, le fait de compter les calories, c'est réel, c'est prouvé scientifiquement, c'est de même que ça fonctionne. Fait que techniquement, je vais donner un exemple qui est un peu niaiseux, mais tu vas comprendre. Si tu as un métabolisme total de 2000 calories puis tu manges 1500 calories de Big Mac, tu vas perdre du poids. Par contre, et c'est un gros par contre, et c'est ça le but du sujet, c'est que les calories n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Et quand on parle des fonctions, c'est que qu'est-ce qu'elles font dans ton corps? On parle de macronutriments, protéines, glucides, lipides. Et là, avant que les gens se posent des questions sur pourquoi j'ai dit ça, c'est que c'est vrai que si tu manges 1500 calories de Big Mac, tu vas perdre du poids. Si tu en dépenses 2000, c'est juste un calcul mathématique. Je vais donner un exemple encore plus intense. Si tu manges 1500 calories de chocolat ou crème glacée au chocolat, tu vas aussi perdre du poids. La seule affaire, et c'est en encore plus gros par contre, c'est que tu ne seras jamais capable de maintenir ça, pour plusieurs raisons. Parce que dans la crème glacée au chocolat, il y a du sucre puis des additifs. Ouais, c'est ça, il est fuck all, là. Fait que tu n'auras pas de protéines, donc tu n'auras aucun effet de satiété. Donc, essaye de maintenir 1500 calories de crème glacée au chocolat. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que tu ne seras pas capable parce que physiologiquement, l'être humain n'est pas fait pour faire ça. Fait que techniquement, ça ne fonctionne pas. J'ai dit que ça fonctionnait parce que selon le calcul mathématique, selon la théorie, mais en pratique, c'est impossible parce que tu ne seras jamais capable de maintenir ça. Dans de la viande et des légumes, par exemple, tu as des protéines, effet de satiété. Tu as des fibres dans les légumes, effet de satiété. Meilleure digestion, donc le côlon, par exemple. Mais ça va aider au niveau de la digestion. Dans la crème glacée, ça va tout te scraper. Tu vas être hyperactif à cause du sucre. Tu vas avoir faim, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir des carences de plein d'affaires. Fait que ça sera pas maintenant. Vas-y, je pense que tu avais quelque chose à dire.
C'est en général comment que j'en parle avec mes clients. C'est ce qu'on appelle l'alimentation thérapeutique. Et dans le fond, le nombre de calories va déterminer ton poids. Est-ce que tu es en perte de poids, en équilibre métabolique ou est-ce que tu vas prendre du poids? Puis tu sais, oui, il y a la science qui a démontré que calorie in, calorie out, tu vas être en perte de poids, en prise de poids ou quoi que ce soit. Puis je pense, il y a même l'histoire du gars chez Subway qui a mangé du Subway de toutes les sortes à chaque jour. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. C'est un gars qui a perdu quelque chose comme 100-150 livres en mangeant du Subway à chaque jour. Puis il a prouvé techniquement. Sauf que quand on parle d'alimentation thérapeutique, on parle techniquement de les choix alimentaires que tu vas faire à l'intérieur, les micronutriments. Fait que tu sais, calorie in, calorie out, comme tu spécifiais tantôt, pour le poids. Mais quand on parle de comment se sentir, la vitalité, la longévité, la digestion, bref, la santé, ben c'est les micronutriments à l'intérieur. Donc, les choix alimentaires qu'on va faire. Puis c'est pas en mangeant 1500 calories de crème glacée que tu vas arriver à ça.
Non, 100%. Fait que tu sais, le point, puis tu conclus le point, c'est que ça fonctionne en théorie, mais c'est aucunement maintenable en personne dans la vraie vie. Ouais, au fou. Niveau physiologique, c'est impossible.
35 calories en général. Mettons entre 25 et 35 calories pour une Doritos entière. Fait que mange 1500 calories de Doritos, je te garantis qu'en un repas, t'es capable de le faire. Un repas, on n'appelle pas ça un repas. Une collation, ouais, t'es là. Capable de le faire. Mais le reste de ta journée, t'as plus aucune calorie. Fait que c'est pas soutenable sur le long terme. Puis on va s'entendre. Mange un 1500 calories de Doritos, va te faire après ça un training de CrossFit.
Non, c'est ça. Puis t'sais, ben, regarde, as-tu vu, je vais rajouter sur le point, dans le sens que si tu manges des Doritos puis tu t'en vas te claquer un CrossFit, ben t'auras pas l'énergie. Fait qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pousser moins. Tu vas mal au ventre. Il y a plein d'affaires qui vont se passer. On s'entend, là. On exagère le point, mais vous comprenez le concept. C'est que t'auras pas de protéines. Tu vas te brûler la masse musculaire. T'auras aucune récupération parce que t'as aucune protéine, littéralement. Et tu vas perdre la masse musculaire. Fait que là, si tu perds, puis là, t'as-tu vu, ça vient prouver mon point que ça fonctionne pas. Parce que si tu perds de la masse maigre, ton métabolisme basal diminue. Fait que littéralement, les calories que tu ingères, au bout d'un moment, il va falloir que t'en manges moins pour équilibrer. Fait que tu sais, vous comprenez le concept. La théorie, c'est real. En pratique, c'est impossible. Et c'est un peu ça le but du podcast, c'est d'expliquer qu'une calorie, c'est une calorie. Je le dis tout le temps lors de nos ouvertures de dossiers avec des clients, c'est je dis, une calorie, c'est une calorie no matter what. C'est comme dire une livre de plumes ou une livre de briques. Qu'est-ce qui est plus lourd? Les deux, c'est une livre. Mais combien qu'il te faut de plumes? Tu sais, tu feras pas une maison en plumes, tu feras une maison en briques. C'est la même affaire là-dedans. Tu sais, les plumes, les briques, c'est quoi? On appelle ça les macronutriments puis les micronutriments. Et c'est un peu ça le but du podcast. Pas d'expliquer les macros, les micronutriments. Pas ça, on en reviendra dans un autre podcast. Mais de déterminer que c'est pas juste qu'est-ce que tu manges en calories, mais le contenu de ces aliments-là. Et principalement, on va parler des aliments transformés.
Vraiment. Parce que les aliments transformés, c'est. En fait, tu viens d'en faire l'ouverture. Puis, tu sais, les aliments transformés, c'est de comprendre que. Je vais en parler là, puis je vais donner l'exemple concret. Il existe des tomates, il existe du ketchup, puis il existe des sauces tomates transformées, ultra transformées. Fait que j'aimerais ça passer en détail le processus de transformation alimentaire. Puis tu sais, nous ici, en alimentation thérapeutique, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va tout simplement juste montrer aux gens comment être capable de faire des choix plus sains. Puis c'est d'être capable de littéralement juste enlever les aliments le plus transformés possible, ceux-là qui vont nuire à leur métabolisme, justement qui vont drainer leur énergie puis qui vont taxer beaucoup, beaucoup de leur, comment je pourrais dire, quantité de calories qu'ils doivent manger chaque jour. Genre, on tasse les Doritos à 750 calories le petit bol, puis on va essayer d'aller le remplacer par des aliments qui vont, un, les soutenir, deux, leur donner de la vitalité. Fait que j'embarque dedans ce sujet-là qui est les types d'aliments au supermarché qu'on va retrouver.
Je vais revenir au point après des... Fais-le au complet, puis je vais revenir au Parfait. Point où je voulais parler du coût des aliments, burger, salade.
Ben, tu veux le faire? Après ça, j'embarque.
Ben, je vais le faire, oui, exactement. Puis ça concluait le point numéro un. On avait comme décortiqué différents points. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, tu sais, on sait tout un peu le concept que tu t'en vas, mettons, on prend l'exemple de McDo, là, c'est un exemple classique que tout le monde connaît. Puis là, honnêtement, je dis ça, puis j'ai aucune idée, c'est rendu combien. Je vois pas McDo, mais mettons, Big Mac, c'est quoi, 8$, genre?
Moi, bon, je pense que c'est rendu plus que ça.
C'est plus que ça, ouais.
Je pense que c'est rendu 12, bon, 13, 14.
12, OK.
Rendu à l'hypothèque et demi. Hein?
J'étais allé, là, peut-être, un petit bout, là, je parlais, parce que je sais que ça avait déménagé justement à Trois-Rivières, mais le restaurant Salade, je sais pas, ça dit quoi?
Ouais.
Clairement, il vend de la salade, parce qu'il l'a deux fois dans le mot, là. Mais en tout cas, on est allé me chercher une salade là-bas. Puis ça avait coûté genre 20$ pour une salade. Elle était super bonne, elle était délicieuse, puis c'était comme un Subway, tu fais ta propre salade. C'était bon. Mais elle a coûté 20$, puis tu peux avoir pratiquement deux Big Mac, peut-être pas, c'est plus cher que ça, mais on va dire deux gros burgers avec une frite genre pour 20$.
C'est fou, parce que littéralement, j'ai un bel exemple ici. Moi et ma blonde, quand on n'a pas le temps, on s'est trouvé des alternatives, on va en parler tantôt justement, mais on s'est trouvé une alternative, il y a une rôtisserie pas loin de chez nous. Puis tu sais, ils font...
Hey, elle n'existe plus?
Non, elle n'existe plus,
je sais. Oui, j'ai vu ça l'autre fois.
Mais la rôtisserie, dans le fond, là, ils vendent des pizzas, ils vendent des poutines, ils vendent des hamburgers, ils vendent de tout ça. Ça, c'est tous des choix qu'un lundi, tu veux pas manger ça, tu vas mal te sentir le reste de la semaine, puis tu vas complètement gâcher tes résultats. Mais on avait trouvé que dans cette rôtisserie-là, ils faisaient une salade César. On demandait à vinaigrette à part. Puis en tant que tel, la salade César, ils te mettaient une méchante belle poitrine de poulet dedans. Fait qu'au final, c'est de la salade, c'est un fromage, OK, ça passe, tu sais, c'est plus grand un peu. Mais en soi, ils te mettaient une poitrine de poulet de quasiment 200 grammes dedans. Fait que moi et ma blonde, on se disait, OK, on va se prendre une salade quand on est vraiment pressé, qu'on doit partir en rush à la maison, puis qu'on vient de finir notre journée, on est claqué, puis ça ne tente pas, ben on va se caler une salade. La salade, sais-tu combien qu'elle coûte? Dis un chiffre de même. Puis tu sais, on parle d'une salade qui coûterait 4$ total à faire. De
dans des places que c'est pas leur spécialité de faire ça, que ils doivent comme changer leur recette un peu pour faire ça. Ils boostent les prix souvent, mais...
Dis un chiffre.
Je sais pas, je vais te dire 20$.
24$ la salade. Fait que moi et ma blonde, quand on arrivait, puis qu'on se le commandait, puis on se le faisait livrer, fait que la livraison avec, puis tout. Fait que 24$.
102 et 25 pour deux salades.
Mais pour vrai, je regarde le matériel dedans, pour 4$. Puis ouais. littéralement, la salade est vendue pour 25$, plus livraison, ça te remonte à 30$. On en prend deux, ça nous coûte 60$ pour deux salades. Fait que littéralement, on pourrait acheter le champ au complet pour ça. Puis tu regardes, admettons, le poulet entier, il est au même prix que la salade. Tu regardes, la pizza est au même prix que la salade, mais tu as une pizza pour une famille au complet.
Tu vois à quel point on est prêt à payer cher quand on est lâche, quand on ne prend pas le temps ou quand on n'a pas le... peu importe c'est quoi. Mais check, justement, je vais les décortiquer rapidement. Mais qu'est-ce qui fait ça? Que mettons un burger, vous payez 8$ ou 12$, puis une salade 25$. Le coût de production, les produits transformés utilisent des ingrédients bon marché et des processus industriels efficaces réduisant leur coût. Deuxième, durée de conservation. Les conservateurs permettent aux aliments transformés de durer plus longtemps, ce qui réduit les pertes et les coûts. Troisième, subvention agricole. Ça, on ne sait pas tout le temps, mais il y en a. Les cultures subventionnées comme le maïs et le soya, souvent utilisées dans des aliments transformés, sont moins chères. Économie, les grandes entreprises alimentaires bénéficient de coûts réduits grâce à la production de masse. Et dernier, demande et offre. Qu'est-ce qui est plus populaire? Un burger frites ou une salade?
La demande est plus grande au burger.
Ben, évidemment, les aliments transformés sont largement disponibles, ce qui favorise des prix plus bas par rapport aux produits frais.
C'est fou parce que tu regardes une bouteille d'eau, ça te coûte 3,50. Tu regardes un Coke, ça te coûte 50 cents ou une pièce. Je ne sais pas, il rentre à combien.
C'est le meilleur exemple, effectivement.
C'est fou, mais c'est ça. L'offre et la demande, probablement qu'il y a plus de gens. En fait, c'est inévitable. Il y a plus de gens qui achètent de liqueur qu'ils achètent de bouteilles d'eau.
C'est clair.
Ça doit être énorme.
T'sais, moi, ce que je dis tout le temps par rapport à ça, puis c'est là-dessus que je conclue ça, c'est quand on parle de retour aux racines, on en a parlé dans un podcast, puis j'en parle souvent avec des clients, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, ce qui nage, ce qui vole, ce qui marche, ce qui pousse, tu restes là-dedans. Pas mal là-dedans.
Le fameux, t'as-tu déjà vu ça, un trou de pepperoni? T'as-tu déjà vu ça? Mettons un envolé de,
de queue
de castor. Puis...
c'est ça, un arbre de docteur, je l'avais écrit en plus.
J'embarque dedans exact. Les aliments transformés parce que c'est le sujet du jour. Puis tu sais, il faut être capable de dissocier ça parce que souvent les personnes, je l'entends beaucoup en clinique, je mange bien, mais je perds pas de poids. Ça, on va faire un podcast littéralement là-dessus. Je mange bien, mais je perds pas de poids. Mais bien manger, ça veut dire quoi? Parce que, tu sais, si une personne vient me voir puis qu'elle mange, une femme, exemple, de 140-150 livres qui voudrait perdre 10 livres, elle mange la même affaire que moi. Puis je considère que je mange bien, là. Mais si elle mange le 2700-2800 calories que je mange chaque jour, elle va devenir un poisson globe en l'espace de un mois et demi. Elle va prendre du poids en fou. Fait que bien manger ne veut pas dire manger adéquatement par rapport à ta génétique, par rapport à tes besoins et tout. Puis tu sais, la deuxième chose au niveau de bien manger, c'est quoi les choix alimentaires que tu fais? Parce que là, on vit dans un air qui est beaucoup plus chimique que dans le temps de nos parents et de nos grands-parents. Fait que tu sais, je vous raconte dans le fond le processus de transformation. On va prendre un exemple très simple avec un aliment que beaucoup de personnes connaissent, la tomate. La tomate, en tant que tel, on peut avoir un aliment qui est non transformé parce qu'il existe quatre catégories en tant que tel d'alimentation transformée. Ou en tout cas, la nomenclature dans le domaine de l'alimentation transformée se fait en quatre catégories. Il y a les aliments non transformés, ce qui veut dire que c'est un seul ingrédient, aucun additif chimique et en général, tu vas avoir le 100% des valeurs nutritionnelles de l'aliment. Ensuite de ça, on va avoir l'aliment semi-transformé. En général, on va avoir environ de 2 à 5 ingrédients à l'intérieur. Fait que sur la liste des ingrédients à l'arrière, vous allez être capable d'en déceler 2 à 5. Et en général, ils vont ajouter de 0 à 2 additifs chimiques à l'intérieur. Et souvent, quand on va faire le premier processus de transformation pour faire un semi-transformé, ben on va se retrouver avec une perte de valeur nutritive à cause de la cuisson et à cause des systèmes de préparation de l'aliment. Le troisième en tant que tel, c'est l'alimentation transformée. Fait que l'aliment est rendu tellement modifié qu'on le considère comme un transformé. De 5 à 15 ingrédients. Là, on ajoute en moyenne, en général, 4 additifs chimiques à l'intérieur. Des agents de conservation, des agents émulsifiants, des agents de texture, des agents rehausseurs de goût, et etc. On va tout en parler de ça. Et il existe l'autre catégorie, qui est les aliments ultra transformés. Puis ceux-là, on recommande vraiment d'essayer de les éviter le plus possible dans votre alimentation parce que ça n'a plus rien à voir avec la valeur nutritive de l'aliment brut premier. Et souvent, les aliments ultra transformés vont contenir 15 ingrédients, plus de 6 additifs chimiques. Fait que quand on parle d'additifs chimiques, on parle de MSG, de sucralose, on parle de plein de différentes molécules comme ça qui servent chimiquement à aller améliorer ou rehausser la qualité, la durée ou peu importe quoi. Fait que si on regarde en tant que tel, cette nomenclature-là en lien avec l'aliment, on reprend la tomate que j'ai parlé de tantôt. La tomate fraîche, c'est la non transformée. Elle est très riche en vitamine C et en général, tu as ton 100% de vitamine. Tu as 100% de la vitamine C disponible dans la tomate. On va la semi-transformer, on va la faire cuire, on va la transformer en purée et on va rajouter du sel, du sucre et du poivre, puis des fois de l'acide citrique. Là, ça devient un aliment semi-transformé. Il y a une perte d'environ 10 à 20 % de la valeur nutritive à l'intérieur de la tomate. Fait que c'est quand même considérablement bon. Puis lorsque vous prenez vous-même vos propres tomates du jardin, que vous décidez de les mettre dans la poêle ou dans la casserole, que vous les écrasez, que vous mettez vous-même votre sel avec un petit peu de crème et tout pour vous faire une sauce, ça devient un aliment semi-transformé. Fait que de cuisiner par soi-même, techniquement, on crée cette transformation alimentaire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir énormément de variété dans votre alimentation et tout. Fait que les aliments non transformés et semi-transformés, c'est ce qu'on prône habituellement.
Ben c'est ça que j'allais dire, dans le sens que c'est pas parce que le mot transformé que c'est comme oh fuck, il faut avoir peur. Parce que comme tu dis, tu pognes une tomate, tu l'écrases, tu mets du sel, c'est transformé parce qu'il y a du sel, puis la tomate vient pas avec du sel. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est quand t'embarques dans les autres après, ouf, c'est
on embarque là-dedans. Là. Puis tu sais, en tant que tel, c'est simple, mais il y a une perte de 10 à 20% de la valeur nutritive lorsqu'on fait la cuisson de la tomate. Mm. Parce que la cuisson veut pas dénature et démolécularise les aliments. La troisième étape, là, on a pris notre tomate, on l'a transformée en sauce, c'est devenu techniquement un semi-transformé. Et là, on prend cette sauce-là et on la transforme en ketchup. Fait que là, si on regarde en tant que tel, ça n'a plus rien à voir avec la simple tomate. On est rendu avec entre 5 et 15 ingrédients. C'est rendu un concentré de jus de tomate, une purée de tomate, du sucre, du vinaigre blanc, du sel, du sirop de maïs à haute teneur en fructose. On a un agent ici, un additif. Oignons en poudre, épices de tout type et arômes naturels. Fait qu'on peut voir que dans le ketchup, il y a 3 à 4 additifs. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur nutritive de la tomate initiale non transformée a perdu près de 50 % de sa valeur nutritive à l'intérieur du ketchup. Fait que là, on embarque dedans des aliments qui vitalisent beaucoup moins votre corps et qui vont vous donner beaucoup moins de pep. Fait qu'on s'entend, le ketchup est moins bon pour la santé que la tomate. Ça, c'est une quote.
Vas-y. Jay. Mais en fait, tu sais, si je peux un peu donner mon take, pas mon take, mais ma perception de ce que tu dis, c'est que, tu sais, dans le fond, si tu fais une recette, peu importe c'est quoi la recette, en partant, c'est transformé. Mais comme le mot transformé, encore une fois, c'est juste parce que c'est pas l'aliment que tu manges pur, que tu cueilles dans ton jardin. Exactement. La problématique, c'est pas tant la recette ou le fait qu'il y ait des oignons, puis du sel, puis du poivre, puis si, parce qu'au bout de la ligne, c'est tout naturel, puis c'est bien. La problématique, c'est quand ils se mettent à rajouter des additifs ou des produits transformés ou des sucres, exemple comme le fructose que tu parlais.
Sirop de maïs à haute teneur en fructose.
C'est problématique, là, au bout de la ligne.
Ouais, exact, parce qu'on dénature l'aliment, mais en même temps, tu sais, si on prend la tomate et qu'on la fait chauffer pour la transformer en, on va dire, compote ou bouillie ou peu importe quoi,
tu perds un peu
des nutriments. Mais là, après ça, le ketchup, il va avoir d'autres procédés, il va avoir des systèmes de filtration, il va avoir... Fait qu'il perd encore de la valeur nutritive.
Ouais.
Et si on reprend techniquement un aliment comme la tomate, qu'on la transforme en bouillie, qu'on fait du ketchup avec et ensuite qu'on va aller l'ultra-transformer, là, on va embarquer dedans les 20-30 ingrédients. Je vous donne un exemple très simple, j'ai rien contre la compagnie, là, mais c'est la sauce tomate ultra-transformée de Chef Boyardee. C'est un exemple parmi des dizaines qu'on pourrait avoir à l'épicerie, mais il y a du monde qui vont se faire une sauce à spaghetti Chef Boyardee ou quoi que ce soit. Puis quand on regarde la sauce à spaghetti que mon père fait, c'est juste un gros sac de légumes, plein de différents légumes. C'est du steak, ça va être de la purée de tomates, ça va être des tomates complètes, ça va être des oignons. C'est juste, on va dire peut-être 10 ingrédients dedans une recette avec des épices et tout. C'est ultra transformé, mais c'est super sain pour la santé parce qu'on le sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Quand on arrive dedans la sauce ultra transformée Chef Boyardee, je liste les ingrédients ici. Purée de tomates, eau, viande de bœuf. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-tu du sabot? C'est-tu de la pâte? C'est quoi? Carottes, sirop de maïs à haute teneur en fructose, amidon de maïs modifié, sel, huile de soya, oignon déshydraté, poudre d'ail, concentré de protéines de soya, colorant, caramel, 4 à 6 épices différentes recettes de Chef Boyardee qui ne veulent pas dire, lait de vache partiellement écrémé et fermenté, acide citrique et un complexe d'enzymes pour aider la digestion. Fait que ça, en soi, on peut voir que l'aliment, à part le colorant, le caramel et toutes ces choses-là, il n'y a pas tant d'affaires négatives. C'est juste que ça a tellement été transformé, chauffé à plusieurs répétitions, filtré, passé dans des processus de transformation et tout, qu'on se ramasse avec environ 70 % de toute la valeur nutritive de la tomate qui est perdue complètement. Fait que souvent, des sauces comme ça, il n'y a pas grande vitalité à les consommer ça. Ça ne va pas donner le même pep en vitamine C ou en autres oligo-éléments dans l'organisme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le corps ne sera pas capable d'utiliser les calories de la même façon techniquement à cause d'un manque de nutriments et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment pour parler du processus de transformation de non transformé, semi-transformé, transformé et ultra-transformé. Si vous faites vous-même votre propre transformation alimentaire, c'est sûr, c'est super bon. Puis en général, on ne rajoute pas nous-mêmes les propres produits chimiques. Puis tu sais, on va en parler tantôt des additifs et des agents chimiques qu'ils mettent dans l'alimentation. C'est souvent ça la grosse problématique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études prouvant des méfaits sur l'organisme et tout. On va embarquer dans ce sujet-là très prochainement, mais faites des choix sains et faites en sorte de vous-même créer votre propre transformation alimentaire au lieu de laisser des gros industriels. Ou sinon, si vous avez à prendre des aliments transformés, faites juste tout simplement aller lire les ingrédients puis ceux que vous n'êtes pas capable de visualiser. Vous ne savez pas si c'est une poudre brune ou une poudre blanche, vous ne savez pas si c'est un gel, vous ne savez pas c'est quoi. Ben, en tant que tel, c'est des aliments que vous devriez éviter. Puis on va en parler en détail tantôt.
Ben justement, gars, je tombe là-dessus. Ce que je vais donner, dans le fond, comme exemple, c'est que j'en ai sorti 8. Il y en avait quelques autres de plus, mais qui étaient pas mal moins populaires puis qu'on ne voit pas tant souvent. Ben, j'ai comme sorti les 8 plus principaux. Et c'est quoi les additifs alimentaires? Ouais. Tu as donné l'exemple tantôt de
MSG,
etc. Ben, je vais justement en nommer quelques-uns. Et avec leur titre, OK? Et c'est, by the way, c'est tous des additifs qui sont permis par Santé Canada. Évidemment, quand c'est permis par Santé Canada, ça veut-tu dire que c'est l'idéal? Pas nécessairement, c'est permis. Donc, tu sais, c'est correct d'en prendre, mais il peut y avoir des problématiques si jamais tu abuses d'en consommer. Okay?
Tu sais, moi, il y a un point tout le temps là-dessus. C'est il y a beaucoup, beaucoup. Puis tantôt, je le listerai, je prendrai une petite note, mais il y a beaucoup d'aliments qu'on consomme, qu'on croit qu'ils sont bons pour la santé et qui vont contenir 13 additifs chimiques à l'intérieur. 14, 15, 16. Puis quand tu lis la liste et que tu t'en vas creuser dans Santé Canada, ils sont approuvés, mais honnêtement, je me pose la question, est-ce qu'ils devraient réellement être approuvés? Parce que tu regardes le dosage avant la toxicité qui peut potentiellement être cancérigène ou créer des TDAH ou créer des gros désordres métaboliques, quoi que ce soit. Puis le dosage, il est basé sur une consommation quotidienne dans ta journée. Je vais en parler tantôt. Mais qu'est-ce que ça fait? Effet compound. Si tu prends, exemple, du caramel, après ça, tu prends du MSG, après ça, tu prends ci, après ça, tu prends ça, puis au final, tu es en contact avec tout le temps 10, 15, 20 produits chimiques à chaque semaine. Qu'est-ce que ça fait sur ta santé? Est-ce que ça peut potentiellement venir à développer des cancers, des problématiques cardiaques, des choses de même? Bien, encore une fois, on joue un peu avec la santé, on va dire, des gens comme ça.
Moi, en tout cas, c'est ma perception. Comment c'est fait, c'est que, tu sais, si, exemple, tu te pognes un sac de Doritos, meilleur exemple, OK? Si t'en prends, mettons, moi... La dernière fois que j'ai pris de Doritos, c'était en camping cet été.
Ça fait
2 mois. Ouais, puis t'es bon, j'étais décobé une soirée, il y en avait plus. Mais tu sais, sac de Doritos, mais comme je risque de pas en reprendre peut-être avant le camping l'année prochaine, si je retourne. Tu sais, tu comprends? Fait que, un peu comment je le vois, c'est quand ça dit permis par Santé Canada, ça dit si t'en prends là, c'est correct. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens, là, je généralise. Prends un sac de Doritos, le lendemain c'est un sac d'Humpty Dumpty, puis le lendemain c'est un sac de Fritos, puis après ça le soir il y a un Coke, puis là il y a de la bière, puis le matin c'est des céréales Fruit Loops, tu comprends?
Ouais.
C'est ça quand t'additionnes ça, c'est là la problématique, puis c'est là sur le long terme qu'il peut avoir des effets négatifs.
Absolument.
Parce que moi je le dis, même si je mange une fois de la tartrazine, ce que j'embarque justement là-dedans, ça ne fera pas grand-chose, mais si t'en manges 10 fois par jour, c'est là la problématique. Puis même là, c'est pas tant le fait que t'en manges 10 fois par jour, c'est le fait que t'en manges 10 fois par jour pendant des semaines. Mm. Fait que j'embarque là-dedans. Tu veux-tu dire quelque chose?
Ben en fait...
Vas-y.
Non, tu peux... Non, vas-y avec ton sujet. Puis dans ton sujet, je vais embarquer face à ça. J'ai une liste ici d'un produit que beaucoup de personnes consomment, même la plupart des gens consomment. Puis tu sais, encore une fois, il faut lire les ingrédients, il faut lire la valeur nutritive parce qu'on se fait un peu envahir par ça. Puis tu sais, tantôt, je vais citer le pourquoi. Selon moi, il y en a qui devraient être bannis. Continue. Vas-y, je te laisse.
En fait, additifs. Premièrement, il y a des colorants. Je vais donner, dans le fond, le titre. Et après ça, je vais donner un exemple de chaque titre. Parce qu'il y a plein d'exemples, OK? Mais des colorants. Par exemple, je venais de dire tartrazine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça si jamais vous avez déjà lu des ingrédients. Tu vas retrouver ça dans différents aliments. Le rôle de la tartrazine, ça améliore l'apparence des aliments. Fait que tu vois, il va être plus beau, plus luisant ou quoi que ce soit. Impact, certains peuvent provoquer des allergies ou troubles comportementaux. Et évidemment, quand je dis ça, et je vais en donner plusieurs impacts, c'est que, encore une fois, c'est pas si tu manges une fois la tartrazine. Mm-hmm. C'est si tu en manges 2, 3, 4 à tous les jours, à chaque semaine, pendant des mois. Mm-hmm. C'est là la problématique. Okay? Deuxième, des conservateurs, tout ce qui finit par sodium. Okay? Nitrate de sodium, c'en est un qu'on voit très souvent. Rôle, prolonge la durée de conservation en inhibant les micro-organismes. Tu sais, tantôt, tu donnais l'exemple de... Chef Boyardee versus la sauce de ton père, par exemple. Tu sais, le problème derrière ça, puis c'est un peu ça, la surconsommation mondiale, c'est que tu sais, des grosses compagnies comme Chef Boyardee, par exemple, qui vont faire une sauce tomate, ils peuvent pas juste garocher des légumes et mettre dans un pot parce que deux semaines après, il est pourri. Tandis qu'eux autres, ils en font des millions et des millions, transportant en bateau. Puis exact, tu peux laisser la canne de conserve pendant littéralement 7 ans si tu veux chez vous, puis ça va être encore bon probablement si tu l'ouvres. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des produits comme ça. Donc, c'est ça. Si on l'a dit, conservateurs, les nitrates de sodium impact préviennent les maladies alimentaires, mais peuvent causer des réactions allergiques. C'est là la grosse problématique. Édulcorant, l'aspartame, par exemple, ça en est un rôle.
On en avait parlé la dernière fois.
Comment?
On en avait parlé dans notre dernier podcast, l'aspartame.
De l'aspartame. Ajoute de la douceur sans calories ou avec moins de calories que le sucre. Impact peuvent influencer les préférences gustatives et la gestion du poids, mais certains peuvent causer des effets secondaires digestifs. Agent de texture, exemple de la gélatine. Rôle, modifie la consistance des aliments. Tout le monde sait un peu c'est quoi de la gélatine. Impact, améliore la texture, mais certains peuvent affecter la digestibilité. C'est toujours peuvent, potentiel, etc. Rendu là, il y en a peut-être qui le digèrent mieux, d'autres moins bien, mais comme, faut juste être conscient. Moi, c'est le même que je le vois. Cinquième, agent de charge, amidon modifié, c'est un exemple. Rôle, augmente le volume sans ajouter de calories significatives. Mais impact peuvent altérer la texture, mais généralement considéré comme sûr. C'est un moins pire.
C'est un très populaire.
Sixième, émulsifiant. Honnêtement, l'exemple que je donnais, je le connaissais même pas. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis, tu sais, on est quand même là-dedans depuis longtemps. On lit beaucoup de valeurs nutritives. Le polysorbate 80.
Ah, ben oui.
Rôle, stabilise les mélanges d'ingrédients qui ne se mélangent pas naturellement, comme l'huile et l'eau. Impact, améliore la texture et la consistance, mais une utilisation excessive peut affecter la digestion. Fait que tu sais, on voit souvent que c'est relié au système digestif. On parlait du microbiote dans plusieurs additifs des fois. Septième, il y en a 8 total. Stabilisant, comme la gomme de xanthane. Ça, on le voit souvent.
Très
pour
populaire.
Ceux qui ne le savent pas, ben, c'est un stabilisant. Ça fait quoi? Maintient la structure et la consistance des aliments pour pas que ça se dissout. Impact, préviennent les séparations. Bon, ça le dit, préviennent les séparations ou les changements de texture, mais peuvent avoir des effets sur la digestion. Encore un guet digestif. Et le dernier, des acidifiants, exemple l'acide citrique qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'aliments. Rôle, régule l'acidité des aliments et améliore le goût. Impact, aide à conserver les aliments, à contrôler le pH, mais peuvent être irritants pour les personnes sensibles à l'acidité. Ça serait un des moins pires, j'aurais tendance à dire. Fait que, j'en ai nommé quelques-uns. J'ai nommé surtout les titres. Comme la catégorie. J'ai donné un exemple de chaque, mais il y a plusieurs exemples. Si je faisais le tour, ça durerait 3 heures juste à les nommer. Là. Fait que Jay, embarque sur justement qu'est-ce que ça fait comme impact quand on en prend sur le long terme.
Ben, je vais citer un petit point pour finaliser ton point avant d'embarquer dans l'impact. J'ai sorti, dans le fond, j'ai listé les top 4 de ceux-là qu'on voit le plus dans l'alimentation et qui créent, on va dire, des désordres plus propices dans le corps. Mais dans le fond, je t'explique une petite histoire personnelle, j'avais trouvé tellement ça drôle. Je pense que je t'allais déjà compter ça, mais je l'utilise beaucoup en clinique avec mes clients. Tu sais, justement pour parler de l'évolution des produits chimiques et des additifs, parce que veux pas, on va s'entendre sur une chose, c'est formidable d'être capable d'avoir une pomme qui pourrit pas pendant 4 mois dans ton frigo. Avant, c'était de la putréfaction à l'espace de 2 semaines. Tu t'achetais un pain dans les années 70, 80, 90, j'existais pas encore, là, mais dans les années 90, tu avais un pain au levain, puis ton pain, littéralement, si tu le laissais sur le comptoir 4 jours, il était mauve, vert, puis il commençait quasiment à marcher.
Ben, c'est pour ça que les pains, exemple comme moi, je prends du Ezekiel, que j'adore,
il est congelé.
Il est biologique, congelé.
Parce que sinon, il va...
Au frigo, mais sinon, tu vas être correct, mais après une semaine,
c'est fini. Ouais. Tu sais, les gens qui écoutent le podcast en ce moment... Je sais pas si des fois vous achetez du lait de vache, mais avez-vous déjà senti du lait de vache après un mois? Il sent la même affaire à cette heure. Avez-vous déjà senti du lait de vache dans les années 90? Après une semaine, il sentait le cahier, voire il y avait des motons dedans.
Mais là, déjà senti un shaker de Jay quand ça fait 3 ans qu'il, pas, qu'il l'a pas pris dans le fond de son Jetta quand il fait chaud?
Sam, protéines. Dans mon RAV4, il y a littéralement un shaker qui traîne depuis que je le regarde du coin de là. Je sais
l'été,
pas pourquoi j'ai ce problème-là.
Chaud,
c'est une maladie ce que j'ai. Mais... dans le fond, là, l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, dans le fond, j'ai de la famille à Chibougamau, puis j'ai un oncle qui avait un magasin anciennement. Ça a été sa carrière. Il y avait un magasin tout usage. Dans le fond, il vendait autant des pains qu'il vendait des revues, qu'il vendait de la bière, qu'il vendait plein d'affaires. Puis un moment donné, je me souviens, on allait là-bas dans le temps des fêtes. On a un chalet là-bas à Chibougamau, puis on allait là-bas dans le temps des fêtes. Puis lui, il travaillait dans le temps des fêtes. C'était même un gros rush tout le temps. Fait qu'il allait au bureau, ben, il allait au magasin. Après ça, il revenait fêter avec nous autres. Il retournait d'urgence, il revenait. Puis un moment donné, je me souviens, il est arrivé en face de notre famille puis il nous a conté une histoire. Puis tu sais, les petits gâteaux Vachon, là, caramels, puis à caramel, puis toutes ces affaires-là. Un moment donné, mon oncle...
C'était bon, ça.
Ah, j'en ai mangé dans ma jeunesse, là.
Un gâteau, une bouchée, man.
Puis tu sais... mon oncle, un moment donné, il arrive autour de la table, devant tout le monde, puis il dit, je viens d'avoir une formation. Ça faisait pas longtemps qu'il avait eu ça. Je viens d'avoir une formation, c'est phénoménal. Dit, ouais. Là, on est comme, écoute, explique-nous ça. Il dit, ça va augmenter mes profits comme vous avez pas idée à quel point. Les petits gâteaux Vachon, emballés dans un petit papier plastique et tout, ils ont toujours eu une date de péremption de 4 mois. Puis là, la compagnie Vachon ont décidé de mettre à l'intérieur du sac et à l'intérieur de leur recette un gaz. On ne sait pas c'est quoi ce gaz-là, mais c'est un gaz. Puis maintenant, les gâteaux, la date de péremption va être de 3 ans. Là, toute la famille, lui, il était super content. Il allait faire 20% plus de profit. Il allait plus avoir ses pertes. Là, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu ma grand-mère avec une face de « what the fuck ». Puis la première chose qu'ils se sont dit, c'est « ok, tu trouves ça normal, 3 ans, un petit gâteau ». Écoute, t'as-tu déjà fait un gâteau? Même peu importe ce que tu peux mettre dedans, impossible qu'il t'offre une semaine et demie, 2 semaines. Là. Mm. Mais là, le gâteau, il va être ses tablettes pendant 3 ans. Puis tu sais, on parle des années 2005-2010. Là. Là, on parle pas de 2024. Là. Fait que ça m'avait fait capoter, mais ils ont inventé un gaz à l'intérieur qui allait faire en sorte que ça allait conserver, que ça allait empêcher le développement des micro-organismes à l'intérieur. Fait que tout est mort à l'intérieur de ça. Il n'y a aucune prolifération. Puis en tant que tel, à l'intérieur du gâteau, ça devait probablement, je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis, là. Ils l'ont blanchi à l'ammoniaque ou bien, je sais pas. Mais ça m'avait vraiment rentré dedans, ça m'avait fait capoter. Puis un autre point, puis celui-là que je voulais citer tantôt, c'est l'aliment que la plupart des gens vont consommer. La dernière fois, je cherchais parce que je voulais me faire des tacos chez nous. Puis littéralement, c'était mon steak, j'avais toutes mes affaires. Puis là, je m'en vais dans l'épicerie du coin, puis je commence à essayer de me trouver ou des pains wrap de blé entier, qui sont tout simplement un pain wrap. Là. Je regarde, il y a 3 compagnies devant moi. Fait que là, je scanne le premier avec l'application Yuka. Là, j'arrive, je regarde, parce que je me dis, un pain wrap de blé entier, c'est le meilleur choix que je peux faire pour me faire des tacos. Sinon, les petites coquilles là, de tacos là, dures, ben ça peut peut-être être un bon choix, mais je suis sûr que c'est bien plus transformé. Fait que là, je scanne le pain wrap. Première affaire que je vois, 13 additifs chimiques. Là, je suis comme, attends un peu, 13 additifs chimiques pour du pain wrap de blé entier, combien de jeunes mangent ça chaque jour à l'école? Là, je m'en vais voir plus en détail dans l'application qui est un recensement de tous les produits chimiques. Yuka, c'est un recensement de tous les produits chimiques qui sont approuvés par Santé Canada. Fait que tu es capable de scanner un produit en un petit clic, puis après ça, il va te lister tout, mais même les effets que ça peut faire. Puis je te nomme un pain wrap parmi les 3 pain wraps, mais les 3 avaient les mêmes 13 produits chimiques. Il y en avait un qui en avait 15. Fait que le moins pire de toute cette gang-là n'avait 13 produits chimiques. Là, tu te dis, Colin, 13 produits chimiques. OK. Je m'en vais voir, il y a 5 produits chimiques qui sont étiquetés par Santé Canada comme étant à risque pour la santé. OK. Je lis les ingrédients des produits chimiques qui sont à l'intérieur d'un, on va dire, pitoyable pain de blé entier wrap pour faire des wraps. Je lis ça. Si quelqu'un dans le podcast connaît moindrement un de ces produits-là, écrivez-le dans les commentaires. Phosphate monocalcique, diphosphate disodique, poryphosphate de calcium acide, carrageenan, mono- et diglycéride d'acide gras, sorbate de potassium, gomme de cellulose, lactylate de sodium, propionate de sodium, gomme de guar, bicarbonate de sodium, on le connaît celui-là, acide fumarique et peroxyde de calcium.
Peroxyde de calcium. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça.
Moi, je sais que du peroxyde, c'est une affaire que je me mets sur un bobo quand j'ai mal.
Peut-être moins pire de celui de calcium, mais ça va être l'idéal.
Tout ça pour dire que tu te prends un pain wrap tout simplement pour manger, pour ton dîner, parce que tu t'en vas sur le chantier ou que tu es pressé ou peu importe quoi. Puis là, tu as un aliment qui est supposément plus sain qu'un pain wrap normal. Puis le pain de wrap blé entier a 13 produits chimiques. Puis tu sais, je vais juste en prendre un là-dedans. Puis après ça, on embarque dans l'autre sujet. Mono- et diglycéride d'acide gras. Ça en est un dedans les 5 à risque. Quand que je clique dessus, ça me sort la définition dans Yuka. C'est un agent de texture. Cet additif est généralement utilisé comme émulsifiant. Les émulsifiants sont suspectés de perturber la flore intestinale, d'augmenter le risque de maladies auto-immunes et allergiques, ainsi que le risque de maladies inflammatoires. Des études récentes de l'INSERM de 2023 et 2024 ont conclu qu'ils augmenteraient également le risque de survenue de cancer et de maladies cardiovasculaires. Puis ça, c'est un à l'intérieur des 13 qu'il y a dans le pain wrap. Fait que littéralement, l'INSERM en 2023 et 2024 ont conclu que le mono- et diglycéride d'acide gras est un produit qui est cancérigène et qui crée des problématiques cardiaques. Quel est le dosage maintenant? Puis ça, on va en parler tantôt. Mais ça, c'en est un. Je m'en vais voir la carrageenan. Même affaire. Le CIRC et une étude de l'INSERM en mars 2024 ont conclu qu'ils augmenteraient le risque de survenue de cancer. Juste dans un pain wrap de blé entier, on est rendu avec 2 additifs chimiques qui ont été prouvés, Puis c'est des études, tu peux cliquer puis tu peux arriver directement à l'étude, qui sont cancérigènes. Puis j'en ai rien listé 2 sur 13. Fait que quand on dit qu'on fait partie d'un monde avec des produits chimiques et des aliments ultra transformés, c'est simple, mais pourquoi est-ce que c'est permis? Pourquoi est-ce que nous, on a accès à pouvoir aller acheter des produits? T'sais,
mettons, moi, comment que je répondrais un peu à ta question que tu as posée par l'entremise, si je dirais, tu sais, oui, c'est la problématique, ils ne devraient pas créer ça, fine, mais au bout de la ligne, c'est tout le temps, c'est la responsabilité de la personne qui l'achète.
Je suis d'accord.
Fait que tu sais, toi, en l'achetant, tu sais que tu vas te faire un wrap, peut-être 2-3, parce que tu en as probablement 6 dans un paquet, exemple, tu en ferais 3, ta blonde en fait 3, puis c'est réglé, là. Puis après ça, tu vas avoir du poulet. Puis comme tout à l'heure, gâte à manger quoi? T'avais du poulet avec du cocombe. Puis moi, j'avais du porc avec des zucchini puis des vermicelles de riz. C'était nos dîners. Mais on le sait que 90 % du temps, c'est ça qu'on mange. Fait que la problématique, c'est tu t'es...
C'est d'encourager ça.
Ou le fait que les gens prennent ça, mais 14 fois par semaine, puis genre 4 fois par jour.
Bien, le problème, je pense, c'est qu'il y a des institutions qui sont là pour nous protéger des industriels qui décident de mettre des produits chimiques dedans. Mais les gens... Parce que je suis sûr que 99 % du monde à qui qu'on parle en ce moment dans le podcast sont pas conscients qu'il y a 13 produits chimiques à l'intérieur du pain wrap. Fait que c'est la prise de conscience. Puis c'est vraiment important de comprendre que tant et aussi longtemps que tu te sens pas bien, que tu as plein de petits troubles, puis que tu continues de manger des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits chimiques comme ça, ben c'est sûr qu'il va avoir des répercussions. C'est sûr que ça peut être une cause à effet possible.
Ben d'abord... T'sais, je vais reposer une question par l'entremise, puis j'invite les auditeurs à méditer un peu là-dessus, mais est-ce que c'est de l'inconscience ou c'est le fait qu'ils n'en ont rien à foutre? Parce qu'au bout de la ligne, je vais donner le meilleur exemple. Mettons la cigarette. En même temps, il y en a de moins en moins. Genre, c'est prouvé que j'avais une étude récemment qui disait que c'est une des années qui avait le moins de fumeurs nord-américains.
Mais je tiens à spécifier une chose sur cette étude-là. On n'a jamais eu autant de personnes qui vapotent.
Ouais, il y a la vapoteuse. Mais je vais prendre l'exemple de la cigarette juste pour les besoins, OK? Tu sais, qui croit en ce moment que fumer la cigarette, c'est bon pour la santé? Avant, c'était le cas, by the way, quand ils l'ont créé, les gens pensaient que c'était super bon. Là, vraiment, vraiment longtemps. Tout le monde sait que c'est pas bon la cigarette. Pourtant, il y en a plein qui fument encore. L'alcool, ou tu sais, qui? Les Doritos. On a donné l'exemple des Doritos tantôt. Tout le monde sait que manger des Doritos, il n'y a rien de bon là-dedans. Tout le monde le sait. Il n'y a aucune personne qui va dire que c'est bon pour la santé. Il n'y a aucune chance. Pourtant, les gens le font. Fait que c'est-tu tant de l'inconscience? Ils savent qu'il y a des produits chimiques là-dedans. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, par contre. Ça, c'est vrai. Mais c'est-tu juste de l'inconscience ou je m'en fous tant que j'ai pas de problème de santé, mettons?
J'avais vu un moment donné, puis tu sais, c'est con, mais à partir du moment où tu commences à, on va dire, te réveiller face à l'industrialisation alimentaire des produits chimiques, puis de comment être capable de se responsabiliser sur sa santé, quand tu arrives à l'épicerie, tout ce que tu vois, c'est, tu regardes, admettons, dans la section des céréales, puis moi, dans ma tête, la première programmation que j'ai, c'est...
Je rentre pas là.
C'est de la cochonnerie. C'est juste des colorants, c'est juste des produits transformés, c'est juste du sucre, c'est juste de la transformation alimentaire à l'état pur, là. Puis du marketing. Fait que tu sais... C'est, je pense, un peu un mélange des deux. Ouais. Quand on parle, admettons, du pain wrap avec les 13 produits chimiques à l'intérieur, ben là, on va plus parler de l'inconscience. Quand on parle de la cigarette, on va plus parler d'une dépendance parce qu'ils sont hook là-dessus.
Effectivement,
là.
Il y a le côté
moi, j'appelle ça le bâton de la mort, mais dès l'instant que tu touches à ça, désolé, mais selon moi, tu perds d'espérance de vie.
La plupart des personnes là, que j'ai déjà... Parce qu'on a eu beaucoup de clients qui fument la cigarette. Là, puis autant des personnes que je connais dans la vie de tous les jours... Là, puis à chaque fois, je posais la question, pourquoi tu as commencé à fumer?
Influence des jeunes.
Ouais, mais juste revenir sur un point que tu as dit, c'est rarement genre, tu sais, tu dis, mettons, dès le moment que tu fumes, t'es hook. C'est que la plupart du temps, ils fument, ils trouvent ça dégueulasse, mais tout le monde le fait. Fait qu'ils reprennent une deuxième, ils trouvent ça encore dégueulasse. Ouais. Comme le café en passant, tu avais déjà donné cet exemple-là. Même affaire, jusqu'à temps qu'ils en prennent 6, 7, 8 parce qu'ils se forcent, puis là, à un moment donné, ils commencent à trouver ça bon ou cool, un mix de tout ça. Puis là, la dépendance commence. Ouais. Mais c'est rare que quelqu'un fume une cigarette. Oh my God, c'est bon. T'sais. En tout cas, j'ai pas
parce que, tu sais, j'ai jamais touché à une seule cigarette de ma vie, mais le café touche mon âme le matin. Fait que
je sais, c'est pas le prix du café, t'as pas trippé.
Non, j'ai détesté ça. C'était amer, c'était pas bon.
C'est ça.
Fait que je passe au prochain. Dans le fond, on avait parlé des impacts des additifs chimiques. T'en as cité un petit peu sur tes 8. Mais moi, je veux vraiment aller dedans le top 3 des. Les top 4 des produits chimiques. On va avoir les nitrites. Ils sont omniprésents dans toutes les viandes transformées. Fait que je vais les lister. Les colorants alimentaires, il y en a dans toutes. Littéralement, là, chaque boisson énergisante, chaque jus, ils en mettent dans les jus maintenant à cette heure, juste pour donner une couleur bleue. Orange, rouge, flash.
Ben, c'est parce que si tu te pognes un jus, exemple, mettons un jus de raisin, puis ton jus de raisin il est blanc, ou peut-être pas blanc, mettons, il est, je sais pas moi, ouais. il est incolore versus ton jus de raisin, il est rouge. T'es bien plus.
Ben oui.
C'était
ben
un vrai jus de raisin.
Ben oui, moi, quand j'étais jeune, je me souviens, je demandais à ma mère, tu sais, il y avait le laitier qui passait à Chicoutimi. Puis il y avait le laitier qui passait, il venait de porter nos trois poches. Puis là, je demandais tout le temps à ma mère, je peux-tu avoir du jus rouge? Puis le jus rouge, il venait en poche de trois. Puis tu sais, c'était du jus fait de concentré, puis c'était de la slush, là. Littéralement, tu buvais un concentré de slush, mais tu regardais, c'était flash. Genre, t'avais même pas besoin de lumière que tu le voyais. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est bourré de produits. Fait que les colorants, il y en a énormément partout, les céréales, etc. Les MSG, monosodique glutamate, ça, c'est toute qu'une invention, puis ça joue un énorme rôle. Fait qu'il y en a dans littéralement tout. Puis tu sais, je donnais un exemple, il y a une vinaigrette extrêmement populaire sur le marché actuel, surtout à Trois-Rivières, parce que ça a été fait dans ce secteur-là. Puis cette vinaigrette-là, versus toutes les autres, à torche sur le marché, pour une seule et unique raison, c'est qu'il y a des MSG. Puis les MSG à l'intérieur, le monosodique glutamate, c'est littéralement la perception accentuée d'un goût. Puis ça crée, on va dire, une dépendance parce que le cerveau n'est pas capable de percevoir qui arrive à satisfaction, fait qu'il en veut tout le temps plus. Fait que c'est un peu comme de sécréter, on va dire, une addiction à quelque chose. Puis dans ton comportement, on va dire, intuitif, inconscient, tu vas reprendre cette vinaigrette-là parce qu'il y a cette molécule-là à l'intérieur. C'est des gros industriels comme McDonald's, Subway, Tim Hortons qui ont utilisé ça, les Doritos, les chips en fait. Puis le dernier, c'est le sucralose. Le sucralose, il est omniprésent partout. Il n'y a plus une protéine en poudre ou presque qui est sans sucralose, sont toutes avec sucralose. Il y a toutes les boissons énergisantes. C'est rendu que les personnes mangent des barres protéinées. Ils mangent des... C'est malade, mais je pense que Mars, les barres Mars, ils viennent de sortir une barre Mars sans sucre.
Ben, ça s'en vient tout là.
Ben, littéralement, une barre Mars, la première chose qui me vient à tête quand j'entends le mot Mars, chocolat, c'est sucre pur. Il n'y a rien d'autre que du sucre. Mm. Fait que si tu remplaces la molécule mère de ce chocolat-là, what the fuck? T'sais, c'est pas normal, là. C'est transformé. Fait que je vous lis dans le fond, en fait, c'est des études que j'ai sorties, puis j'ai les sources aussi. Fait que dans la description du podcast, je vais t'y citer Sam, puis on les rajoutera à l'intérieur. Comme ça, les gens vont pouvoir aller se référer à ça. Mais dans le fond, au niveau des nitrites, une étude a examiné les preuves sur la cancérogénicité des nitrites et des nitrates, en mettant l'accent sur leur potentiel à induire des mutations génétiques et des effets cancérigènes. Les nitrites, souvent utilisés comme conservateurs dans les viandes transformées, peuvent se convertir en nitrosamines, des composés cancérigènes puissants dans l'organisme. Les résultats montrent que les nitrosamines ont des propriétés mutagènes avérées dans des études sur des animaux et des cultures cellulaires, ce qui soulève des préoccupations concernant leur impact potentiel sur la santé humaine. C'est une étude en tant que telle du International Journal of Cancer. Puis en tant que telle, qu'est-ce que ça montrait? C'est qu'il y a des niveaux de nitrites considérés dangereux sur la Terre. Et en tant que telle, ce que la FDA a approuvé, c'est de ne jamais dépasser 0,06 mg par kilogramme de poids. Si on regarde en tant que telle, c'est l'équivalent de manger, on va dire, environ 10 tranches de jambon, très riches en nitrites, quotidiennement chaque jour. Ça veut dire qu'une personne qui décide de manger du jambon à chaque jour, tout le temps, chaque déjeuner, a tout le temps son même jambon avec des nitrites à l'intérieur, il va venir atteindre, puis si on parle de 10 tranches, on parle aux entours de peut-être un 400 à 450 grammes. Là. C'est des grosses quantités quand même, mais ça reste quand même que c'est propice. Quand on mange une pizza, la pizza en tant que telle avec les charcuteries comme les pepperonis, les salamis, etc., c'est extrêmement riche. Fait que dans une pizza, on va dire 12 pouces que tu manges à toi seul, est-ce que tu atteins le niveau cancérigène des nitrites? C'est encore une fois des affaires qui sont très difficiles à aller cibler puis tout. Et le dernier aussi, c'est toutes les viandes en conserve, il y a des nitrites rajoutées à ça. Fait que tu sais, c'est important de comprendre que les nitrites sont reconnus comme un mutagène et sont potentiellement cancérigènes, surtout lorsqu'ils sont convertis en nitrosamines dans le corps. Fait qu'il y a un niveau de toxicité. Puis ça, c'est décelé. C'est permis quand même parce qu'on veut faire en sorte que la viande, puis c'est fou, mais les nitrites, c'est un conservateur. Fait que les viandes, au lieu de développer une odeur, une saveur, on va dire nauséabonde et pas le fun, bien ton jambon va se conserver pendant 3 semaines, 1 mois, sans perdre aucun goût, sans perdre aucune couleur et aucune qualité au niveau de l'odeur. Fait que les nitrites, c'est le rôle qu'ils ont. Fait qu'il y a des avantages, mais au niveau de la santé humaine, si on est en contact tout le temps avec des viandes transformées, si on est en contact tout le temps avec des jambons, avec de la dinde, avec des choses dans le même, tout ce qui est charcuterie, bacon, etc., on se bourre de nitrites, puis on se pose la question du pourquoi il y a une augmentation au niveau des risques de cancer chez l'être humain présentement.
Je veux faire un lien sur ce que tu as dit, parce que tantôt, tu disais, mettons, si tu manges du jambon tous les matins, mettons 10 tranches, ce serait abusif, là. Mais tu sais, moi, juste pour expliquer un peu ce concept-là, je mange du jambon tous les matins depuis, genre, je pense, les 3 dernières années. OK, je mets ça dans mes œufs, puis je me suis tellement écœuré à manger des œufs. Mais, biologique. Et dans sans mon nitrite. Jambon, exactement. Il n'y a pas de nitrite. Je le prends pour ceux qui ça pourrait intéresser. Là, j'adore cette marque-là. Si vous avez une carte Costco, c'est la marque du Breton. Ils viennent en pack de deux. Il faut comme tes déchires. Puis c'est toutes des tranches qui sont empilées une sur l'autre. T'en as peut-être une dizaine, quinzaine par sac. Plus cher un peu. Il revient moins cher vu que tu les prends au Costco.
J'ai fait le calcul. Mais bio, pas de nitrite. Il est 40% plus cher que les autres.
Mais si tu le prends au Costco, il est moins cher qu'à l'épicerie. Hey, j'ai pris à l'épicerie un pack. Oui. Au Costco, t'en as deux. Même prix. Fait que dans le fond, ton 40%, je sais pas par rapport à quoi, là. Mais tu sais,
Il y a le jambon Kirkland, puis il y a le jambon du Breton, puis il est 40% plus cher que l'autre. Ça revient 40% plus cher pour la même quantité.
Ça veut dire qu'il est 90% plus cher à l'épicerie qu'au Costco. Ouais,
carrément.
C'est 50%.
Ouais, c'est fou pareil quand on
mais tu sais, moi, honnêtement, oui, je regarde des fois les prix, mais au bout de la ligne, j'aime mieux quand même prendre un biologique sans nitrite. En sachant que j'aime le jambon, puis pas m'écœurer de manger des œufs. Mais c'était juste pour dire que c'est possible de prendre du jambon sans nitrite.
Sans nitrite.
Bio, etc.
Du pepperoni, par contre, sans nitrite, ça doit être quand
j'ai
même
assez
rare.
J'ai jamais vu
ça. Fait que tu sais, encore une fois, c'est toujours d'être conscient de qu'est-ce qu'on mange et prenez la peine de lire les valeurs nutritives derrière vos aliments. Puis tu sais, des aliments que tu consommes une fois de temps en temps, c'est comme moi, mettons, là, je peux dire ouvertement, du jambon, j'en mange pas tant souvent. De la pizza avec des pepperonis transformés puis tout, si ça arrive une fois par année, c'est bon. Tu sais, c'est rare que ça arrive. Fait que probablement que je suis pas à risque parce que je mange pas beaucoup de nitrites, parce que je suis conscient de cette molécule-là. Puis si j'ai à manger du jambon, il est toujours sans nitrites. Fait que tu sais, en étant conscient de ça, je suis capable de faire des choix encore plus santé. Puis encore une fois, le but, c'est quand on parle de calorie in, calorie out, comme tu as cité au début, c'est la gestion du poids. Mais quand on parle de comment on se sent, de longévité, de vitalité, de cognitivité, de tout l'ensemble de vos sphères qui sont fonctionnelles à leur plein potentiel, c'est tous ces petits combats-là qui font la différence. Parce que si votre corps reçoit de la nitrosamine, des nitrites à l'intérieur de son organisme, puis que le système immunitaire, le système de réaction du corps va devoir s'attaquer à cette molécule-là, il envoie du potentiel énergétique pour aller, tu sais, combattre. Fait qu'au final, peut-être qu'il va vous taxer 10-15% votre potentiel énergétique. Fait que vous allez avoir moins d'énergie pour la cognitivité, la digestion, la libido, etc. Souvent, c'est ça que j'explique aux gens. C'est moins il y a d'irritants dans ton organisme et plus tu vas ressentir d'énergie à la sortie parce que tu n'as plus rien qui te taxe. Fait qu'en coupant les nitrites puis en ayant juste porc, sel avec un peu d'épices, tu viens de régler le problème puis tu peux en prendre à chaque jour, là. Le deuxième point, le monosodique glutamate qu'on appelle les MSG. Les MSG, je ne veux pas me tromper là-dessus. Ben en fait, je ne le dirai juste pas parce que je ne veux pas me tromper là-dessus.
C'est quoi, t'as l'oeuvre, le fun, ça m'intrigue.
Ça t'intrigue. Je crois que c'est dans les années 60-70 okay. Puis c'est McDonald's qui l'ont lancé. Mais je ne suis pas certain si c'est McDonald's de cette source-là. Fait que prenez pas ça en compte. Mais en tant que tel, j'ai sorti une méta-analyse qui a examiné les effets du glutamate monosodique sur la santé. Bien que le MSG soit largement utilisé comme exhausteur de goût, des préoccupations ont soulevé quant aux effets neurologiques et métaboliques. Les recherches ont montré que des doses élevées de MSG peuvent provoquer des symptômes tels que des maux de tête chroniques, des nausées, des sensations de brûlure, connues sous le nom de syndrome du restaurant chinois. Certaines études suggèrent également leur effet neurotoxique potentiel, notamment des dommages de neurones et des perturbateurs métaboliques dans le corps. Fait que, tu sais, en tant que tel, les problèmes de santé décelés par les MSG, c'est souvent tout ce qui est vertige, maux de tête chroniques et nausées, avant, pendant et après les repas. Des brain fog, de la fatigue chronique, de la difficulté à trouver ses mots et surtout une baisse de mémoire. Et des perturbateurs au niveau du métabolisme, donc du glucose, de l'insuline, et ça peut être porté à venir dérégler en tant que tel la gestion des glucides dans l'organisme, la sensibilité à l'insuline, et à être plus propice à vous faire prendre du poids. Fait que tu sais, c'est une molécule qui est omniprésente dans énormément d'aliments, dans la plupart des vinaigrettes, dans la plupart des chips, voire toutes les chips, dans la plupart des biscuits, dans énormément de différents aliments. Les sauces, tout ce qui est industriel au niveau des vinaigrettes et sauces, c'est pratiquement certain que le monosodique glutamate va être à l'intérieur. Et lorsque vous allez dans des mets chinois, dans des buffets à volonté et dans la restauration, genre, je donne un exemple, McDonald's, Subway, Burger King et tout, ils ont juste des avantages à mettre des MSG à l'intérieur, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de lister les ingrédients parce que c'est des recettes secrètes. Fait que les MSG sont très omniprésents, ce qui vient à créer un rehausseur de goût, une dépendance à ces molécules-là, puis ça peut venir à créer ces problématiques-là. Fait que faites attention quand vous mangez régulièrement au restaurant. Troisième, c'est sur les colorants. Les colorants, je trouvais ça super intéressant parce que là, on en voit de plus en plus. Il y a des colorants qui ont été bannis ici, qui ont été bannis en Europe, en Allemagne, à plein de places différentes, mais qui sont encore permis ici. Puis ils ont retiré ça parce qu'ils se sont réellement rendus compte qu'il y avait des risques de cancer, que ça créait des gros désordres au niveau de du comportement psychologique chez les enfants. Fait qu'il a été retiré à ces endroits-là, mais ici, ils sont encore légaux. Encore une fois, Santé Canada sont supposés de faire une surveillance face à ça. Puis c'est toujours une question de quantité maximale avant des potentiels dangers. Mais tu sais, si tu prends deux fois des nitrites dans ta semaine, six différentes sortes de colorants dans ta semaine, après ça que tu prends des MSG, après ça tu prends ci, après ça tu prends ça, quel est l'effet couplé de toutes ces molécules-là? C'est là qu'un moment on peut, selon moi, avoir des désordres. Mais c'est
juste... Des fois, c'est sur... Pas une journée, deux journées, c'est une semaine, deux semaines, c'est sur plusieurs années.
Parce que là, tu te ramasses dans un pain wrap que tu as du mono et diglycéride d'acide gras, tu as plein d'affaires, fait que tu es campant de tout, mais un seul pain wrap, tu en as 13. Tu n'as pas ta liqueur avec ça, tu n'as pas ton jambon avec tes nitrites, tu n'as pas ta mayonnaise avec tes ci, tes ça. Fait que le troisième en tant que tel, c'est une revue systémique qui évalue les impacts du colorant alimentaire sur la santé. Certains colorants, comme le rouge Allura, le jaune tartrazine, comme tu as cité tantôt, ont été associés à des effets néfastes tels que des troubles de l'attention, des réactions allergiques et des effets cancérigènes potentiels. Encore une fois, c'est des molécules qui peuvent aller jouer avec le métabolisme puis le nettoyage cellulaire. Les recherches montrent également des préoccupations concernant les effets des colorants sur le comportement des enfants et les effets à long terme sur la santé générale. Puis on pointe de plus en plus du doigt tous les types de colorants alimentaires comme étant des exhausteurs, des amplificateurs au niveau des troubles, comme, admettons, TDAH et toutes les kits. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment les papiers ici, puis on va mettre les sources. Ce qui est intéressant en tant que tel, c'est que c'est une étude du journal de Lancet. Puis en tant que tel, les problèmes santé décelés qui ont vu le plus avec justement les colorants, troubles du comportement, notamment l'hyperactivité chez les enfants. Puis moi, personnellement, j'ai vu une grosse différence. En clinique, lorsque j'avais eu des clients, des jeunes, exemple, leur mère était venue me voir pour une perte de poids, puis elle me disait « mon jeune est très, très, très hyperactif et tout, il est suivi par son médecin, mais au niveau de son alimentation, il est en contact énormément avec des colorants. » Fait que je lui ai juste tout simplement fait un conseil qui était « fais attention aux colorants alimentaires ». Elle a mis ça en application et elle a vu une différence drastique dans le comportement. Fait que c'est super intéressant pour ça. Les réactions allergiques et les sensibilités diverses. Il y a des colorants qui ont été répertoriés comme étant des, on va dire, ils chamboulent en tant que tel le profil enzymatique, donc la capacité au corps de pouvoir aller digérer les aliments correctement. Fait que ça nuit à la digestion, ça peut nuire potentiellement à la digestion. Et des effets cancérigènes à la consommation long terme. Puis quand on parle en tant que tel de la quantité de colorants, la quantité, je l'ai sortie par rapport à un gars de 200 livres comme moi. 200 livres pour atteindre un seuil dangereux, c'est évalué que si je consomme 7 boissons énergisantes de type, admettons, Monster ou quoi que ce soit, dans une journée, fait que tu sais, je donne un exemple. Je prends un BCAA au matin en me réveillant. Je décide de me prendre une boisson énergisante. Ensuite, une grande, fait qu'il peut contenir le double de quantité. Ensuite, j'essaie de me prendre un autre BCAA pendant mon entraînement. Le soir, je décide de manger un petit 2$ de bonbons. Et ensuite de ça, je me prends, exemple, une sauce industrielle qui contient un colorant à l'intérieur. Et je suis potentiellement capable d'aller atteindre le niveau dangereux où ils ont décelé que ça pouvait créer des problèmes de comportement, des cancers et des choses de même. C'est intéressant parce que c'est atteignable pour un gars comme moi qui utilise des produits sportifs et tout. C'est malade, là. Puis, le quatrième, qui est un très populaire, puis que j'ai... En fait, je l'ai rajouté parce que j'ai des clients qui me le demandaient, c'est le sucralose. Fait que le sucralose, on en entend beaucoup. Puis, tu sais, il y a beaucoup de débats face à ça parce qu'on va s'entendre, on joue dans des pain points, des points de douleur chez les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, si le sucralose n'existait pas, ils tomberaient dans le liqueur bien comme du monde, ils tomberaient dans le malbouffe bien comme du monde. Puis il y a beaucoup de personnes dans le domaine du fitness, on va dire, qui sont des fervents prôneurs de sucralose, de polyalcool, d'édulcorants et de toutes ces choses-là. Mais l'affaire, c'est juste parce que c'est leur, on va dire, sauveur pour être capable de continuer de suivre leur structure alimentaire. Mais ça reste quand même qu'il y a des effets décelés face à ça. Fait que si je regarde, c'est en tant que tel une étude qui a été faite. C'est une analyse qui explore les effets du sucralose, un édulcorant qui est utilisé en tant que tel pour remplacer le sucre. En tant que tel, le sucralose est considéré comme étant sûr, mais les agences de régulation ont quand même un œil et des préoccupations dessus par rapport à l'effet sur la santé intestinale, l'effet sur le microbiote et le système immunitaire et le métabolisme du glucose. Fait qu'ils se sont rendus compte que chez une personne diabétique, il n'y a pas que des effets positifs. Un autre point aussi, les recherches ont montré que ça peut altérer la composition de la flore intestinale et avoir des effets néfastes au niveau de tout ce qui est gestion glycémique. Fait que c'est bien important de comprendre que majoritairement, le sucralose, les trois effets principaux, c'est au niveau de la flore intestinale et du potentiel, on va dire, impact sur la santé digestive et métabolique. C'est au niveau des personnes qui sont diabétiques, ça peut... Il commence de plus en plus à sortir des papiers comme quoi que ça l'aide pas en toute la situation au niveau de la gestion de l'insuline, la résistance à l'insuline et tout. Voir, ça pourrait même amplifier ça. Et d'un autre point aussi, des réactions allergiques et des effets gastro-intestinaux. Et moi, j'en ai déjà répertorié plusieurs, j'en ai déjà vu plusieurs en clinique ici. Des personnes qui étaient, on va dire, très, très, très sensibles au sucralose. Puis dès l'instant qu'ils prenaient une protéine en poudre contenant du sucralose, une sauce contenant du sucralose, quoi que ce soit, il y avait des selles molles. Fait que c'est des affaires que j'ai vues à plusieurs reprises. Les études ont montré au niveau du seuil de toxicité que les doses de sucralose dépassant 15 mg par kilogramme de poids corporel par jour présentent des doses critiques ou risquées. L'équivalent d'environ 14 liqueurs par jour. Fait que c'est là que les débats sont grands, c'est qu'encore une fois, moi, je suis dans l'optique de, on essaie de manger le plus sain et le moins de produits chimiques. Puis ça, c'est des produits chimiques faits en laboratoire par des hommes en sarrau. C'est simple de même. Ça remplace une molécule qui a créé beaucoup de dommages, qui est le sucre dans la population. Mais 14 boissons sucrées. OK, on prend, mettons, une sauce. Après ça, je vais me prendre, mettons, une protéine en poudre deux fois dans ma journée. Après ça, je vais décider de me manger des bonbons sans sucre parce que c'est bon pour la santé meilleure. Il n'y a pas de calories dedans. Puis après ça, ben je vais prendre du monosodique glutamate. Je vais prendre de la tartrazine. Je vais prendre de ça, je vais prendre de ci. Encore une fois, c'est toujours ce questionnement-là que j'ai. Quels sont les effets compound de tous ces aliments-là sur la santé, sur le court, moyen et long terme?
Mm. Tu sais, juste revenir au niveau du sucralose, tout à l'heure, j'ai pris une note parce que je voulais t'en parler, mais tu sais, on entend souvent parler ces temps-ci de boissons sportives zéro sucre. OK? Ouais. T'sais, mettons, je vais prendre l'exemple du Gatorade, c'est le plus populaire. Ouais. Puis là, il commence à avoir de plus en plus de Gatorade zéro calorie, zéro sucre. Le problème un peu avec ça, c'est que quand on parle pour les sportifs, là, je parle vraiment des sportifs athlètes, c'est que si tu es un sportif et tu dis hey, je vais prendre du Gatorade zéro sucre, zéro calorie, zéro tout le kit, ben au bout de la ligne, dans le fond, c'est que tu perds le bienfait du Gatorade. Parce que le concept d'une boisson sportive, c'est d'avoir du sucre. Mm. Et si tu n'as pas l'effet sucrant, si tu n'as pas l'effet calorique du sucre, ça donne absolument rien. Hein. Tu te tiens dans le pied. L'objectif, c'est d'avoir du sucre. Fait que tu sais, pour des personnes qui veulent perdre du gras, qui veulent perdre du poids, ça peut être utile. Mm. Pour des sportifs, selon moi, c'est complètement ridicule. En tout cas, ça serait de voir selon chaque personne, mais en gros, c'est le même que je le dis.
Absolument.
Tu fais le tour sur ça?
Ouais,
le tour?
En masse.
Cinquième point, choisir des aliments moins transformés et intégrer des options naturelles. En fait, c'est très quick comme point. On n'est pas pris dans notre temps. C'est juste de dire, dans le fond, de comment faire en sorte d'en consommer moins sans nécessairement que ça soit trop difficile de le faire. T'sais. Puis j'ai sorti trois points. Premièrement, c'est l'éducation. En fait, littéralement, le podcast que vous écoutez en ce moment est ça, de l'éducation. C'est de comprendre exactement, de prendre conscience, de lire les étiquettes sur les aliments. Et même si c'est marqué une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est l'effet compound. C'est quand t'en prends 12 fois par semaine puis 14 fois par jour. C'est là la problématique. Fait que là, les étiquettes, et essayer de comprendre, faire des liens sur les termes qu'on a faits. Comprendre les termes, justement. Donc ça, c'est l'éducation. Deuxièmement, quand vous allez à l'épicerie, on l'a dit rapidement tout à l'heure quand tu disais la section des céréales. Ouais, j'ai dit, moi, plus, je rentre pas dedans, moi non plus, là. Mais tu sais, reste du côté des viandes, des fruits et des légumes. Mm. On l'avait pas dit dans un podcast, mais tu sais, en passant, quand tu rentres à l'épicerie, je pense qu'ils sont toutes faites de même.
Pas mal.
Mais tu rentres dans la section fruits-légumes, dans pratiquement toutes les épiceries que je connais. Fait que tu fais le tour là, moi je reste là longtemps parce que tous les fruits et les légumes que je mange. Après ça, souvent tu passes pain-viande, tu continues. Fait que là, je prends mon pain, ma viande, produits laitiers sont pas trop loin. Des fois, ils sont dans le fond. Bon, je cherche mes œufs, mes produits laitiers. Des fois, des épices, du sel, des rangées. Une fois de temps en temps, j'ai goût de me pogner un sac de chips, je vais y aller, mais comme 98% du temps, je ne vais pas tant déranger. Les noix, peut-être. Les noix, ça pourrait rentrer là-dedans. Puis pour vrai, j'essaie de réfléchir, puis that's it. Genre, je te dirais plus que 50%, même je te dirais 75% du temps, je vais jamais dans les rangées. Parce que les noix, tu achètes une fois par deux mois tellement ça dure longtemps. Le reste, c'est les fruits, les légumes, les produits laitiers, les affaires.
En fait, comment les épiceries sont faites, parce que j'avais déjà travaillé dans une épicerie anciennement, puis j'ai tellement pu analyser ça dans tous mes temps morts que tu as tous les produits frais. Premièrement, tu as les fruits, c'est les choses qui putréfient le plus rapidement possible. Ensuite, tu avances dans le tunnel de vente, tu arrives directement dans la viande qui putréfie et qui peut périmer. dans le milieu en tant que tel est rangé, ils savent que c'est là qu'ils vont envoyer les gens. Fait que c'est un tunnel. C'est tous les agents transformés qui peuvent se conserver pendant longtemps. Et dans le fond, complètement, tu as tout le surgelé. Fait que le surgelé, c'est des années ou des mois et des mois. Fait que tu sais, en soi, la rotation se fait, mais.
C'est quand même cher, par exemple.
C'est, logique parce que si tu mets tes fruits complètement dans le fin fond, là où il y a les produits laitiers puis tout, là, c'est fini, t'es batté, ils vont tout pourrir. Fait que ça fait pas mal le tour sur ton point.
Il en restait un.
Vas-y, vas-y.
Cuisiner. Et ça, c'est probablement le plus important, en fait. Tu sais, tu l'as dit tantôt, au début, on disait que si tu prends une tomate, tu mets du sel, puis tu l'aplatis, puis tu mets du poivre, ben oh, c'est transformé. Ouais, mais c'est une tomate au bout de la ligne. C'est peut-être une recette. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que quand on parle de cuisiner, c'est toujours de dire, si tu cuisines pas, ça va être difficile d'intégrer des options naturelles parce que c'est dur. Honnêtement, c'est dur. C'est difficile de commander du restaurant ou d'aller au restaurant ou d'acheter un aliment en conserve, en canné, en sachet, en emballé, qu'il n'y a pas de produits transformés. Puis je reviens toujours à ça, puis je le répète, c'est super important. Si tu en prends une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu fais l'effet compound et t'en prends tout le temps, c'est là la problématique. Un des meilleurs exemples que je peux te donner, pour vrai, je prends jamais, pratiquement jamais de conserve, mais je viens d'avoir un flash. Des fois, moi et ma blonde, on se fait des pizzas sur des pains nanes, des gros pains, là, vous savez c'est quoi. Et souvent, ce qu'on va se mettre, on avait assez à manger avec une sauce tomate, puis c'était comme, ah, on dit, ça goûtait le spaghetti, genre. Fait que maintenant, on achète, puis c'est clairement ultra transformé, là. Mais c'est une canne, elle est tout petite, puis c'est genre pâte à tomate. C'est sûr, je lirai les. Puis je le fais pas parce que je sais qu'il y en a
c'est
plein.
C'est marqué Chef Boyardi à l'arrière.
Non, c'est pas Chef Boyardi, c'est gars, je pense que c'est la marque Gattuso. Okay. Il est bleu, c'est marqué 25% moins de sodium, en tout cas, peu importe. Puis j'utilise ça sur mon pain nane, mais tu sais, la dernière fois que j'ai mangé du pain nane, ça fait 3 semaines. Mm. Tu sais, c'est. Puis honnêtement, la pizza est délicieuse. C'était le choix de t'en faire une pain nane, demain avec une petite sauce, une petite canne de tomate.
J'avais scanné le pain nane, puis il y avait 18 produits chimiques dedans.
Pour vrai, probablement.
Non, ça se passe.
Mais tu sais, je mets du poulet, je coupe des piments, des légumes, plein d'affaires. On met une petite sauce, genre barbecue, du fit cook. Mm. Sinon, c'est la sauce, la pâte tomate, puis oui, le pain nan un peu. Mais tu sais, j'ai fait une pizza maison, puis honnêtement, elle est meilleure qu'une pizza pepperoni fromage, genre chez Pizza Hut, mais elle est maison.
Attends que les MSG de la pizza te rentrent dedans, tu vas voir qu'après ça, tu seras plus capable de t'en passer. Je passe au dernier point, qui est en tant que tel un exemple concret d'un à quel point on se fait des fois, comment je pourrais dire?
Bullshiter.
Ben oui, c'est le mot. Je voulais être plus poli, mais jouer dans le dos, façon de parler. Puis c'est un exemple que probablement, j'espère qu'on n'aura pas de poursuite pour ça, parce que c'est réel puis c'est documenté sur Internet. Mais un exemple des aliments contenant un additif très, très, très douteux qui a vraiment fait polémique puis qui ont même quasiment fait faillite à cause de ça. Leur chiffre d'affaires avait chuté dedans ça. En 2012, McDonald's et Subway ont débuté l'utilisation de ce qu'on appelle de la Pink Slim. Fait que c'est quoi de la Pink Slim? Parce qu'on la retrouve de moins en moins. Je crois qu'ils l'utilisent encore, mais là, ils ont comme enlever les zones grises autour de la Pink Slim, puis là, c'est clair. Je lis la description de ce que j'ai trouvé de la Pink Slim, mais honnêtement, dans le fond, c'est simple. Ils prennent leur boulette, mais pour réussir à diminuer de 50% les coûts, ils vont le mélanger avec de la Pink Slim. Fait que tu sais, le poulet chez Subway, le thon chez Subway, ces affaires-là, anciennement, je ne sais pas si c'était encore le cas là, mais en 2012, ils se sont fait pogner, puis ça a fait polémique. Il y avait de la Pink Slim dedans. Je lisais quoi? La Pink Slim est fabriquée à partir de morceaux de viande de bœuf, principalement des parties moins prisées et des déchets de viande récupérés après abattage. Ces morceaux sont traités avec de l'ammoniac et d'autres agents antimicrobiens pour éliminer les bactéries, tels que des antibiotiques et des nitrites pour prévenir la croissance du Clostridium botulinum. C'est quand même
intéressant comme mot.
Quand même dégueulasse. Fait que tu sais, juste pour expliquer que tu prends, mettons, un mélange des os, des yeux, des sabots, de toute la kit, puis tu le brasses au fur et à mesure. Puis tu sais, c'est toute la carcasse. Puis là-dedans, là, il y a tout. Il y a les boyaux, il y a les intestins, il y a tout dans la Pink Slim. Tu perds rien de ta carcasse que tu achètes. Puis après ça, il te le brasse, il te le mélange, il te le déchiquette tellement pour que ça devienne une purée. C'est rajouté avec plusieurs petits produits chimiques. C'est traité à l'ammoniaque parce que, simple, il y a des sels, il y a plein d'affaires là-dedans. C'est bourré de bactéries, là. Fait qu'ils vont le traiter avec des traitements extrêmement dangereux, on va dire, mais avec des dosages limite. Puis après ça, ils vont le rajouter à 50%, à 40%, à 30% à l'intérieur de leur boulette pour faire en sorte que quand tu manges ça, ben c'est fait à base de viande. Mais c'est de la Pink Slim. C'est une invention qu'ils avaient faite. Puis qu'est-ce qui s'était passé? Puis tu sais, McDonald's, à ce moment-là, je me souviens, j'ai lu beaucoup sur cette histoire-là. dans le fond, ils ont vraiment... Écoute, dans le fond, eux autres, ça a toujours été la famille. Fait qu'ils ont tout le temps prôné un beau mode de vie pour la famille, les burgers, tout le kit, les croquettes, il y avait le joyeux festin, il y avait des jeux. C'était vraiment un beau moment en famille, c'était de l'émotionnel à fond. Puis en 2012, ils ont fucked up, ils ont passé dans le journal avec la Pink Slim. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont eu à faire un virement complet, drastique, de leur système économique dans leur entreprise, parce que là, les actions plantaient, et le consommateur avait réalisé qu'il n'était pas là pour notre santé, là. Il était là pour le profit. Fait que ça a comme complètement mind-shift le système. Fait qu'ils sont devenus les plus gros producteurs de café planétaire. Puis ils ont commencé à tout convertir pour faire des wraps, pour commencer à offrir des services un peu plus santé. Ils n'ont pas eu le choix parce que la clientèle avait réalisé à quel point il y avait eu de la cochonnerie là-dedans. Puis ils ont eu à renverser, on va dire, les mauvaises publicités autour de ça. Subway, je sais qu'un moment donné, j'ai déjà lu là-dessus, mais c'est pas de source fiable, que leur thon, il y avait à peu près 40-50% de sources de thon et de matière inconnue. Fait que tu sais, c'est des choses qui des fois vont utiliser.
60%, ça va être de la mayo.
Ben, ouais, c'est de la mayo, un bol de mayo là, complet. Fait que tu sais, tout ça pour dire que quand on mange du fast-food, on n'a aucune idée c'est quoi. Tu sais, j'avais déjà vu une patate dans un air fryer, t'as deux ingrédients. T'as de l'huile, trois. Patate, huile avec du sel. C'est ça en général. Puis si tu te mets des épices, t'es fancy, tu vas te mettre des épices. Les patates chez McDonald's, combien d'ingrédients peut avoir à l'intérieur? On parle d'entre 20 et 35 ingrédients. Mm. Ça n'a plus rien à voir avec une patate, là. Fait que c'est ultra transformé. Puis je termine. En fait, non, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas là-dessus. Fait que je pense que c'est pas mal ce qui close le sujet au niveau des aliments transformés. Tu voulais-tu dire un dernier point?
Ça? En fait, c'est que je voulais justement faire la conclusion dans le sens que, tu sais, on a parlé de bien des affaires au niveau des produits transformés. Je pense que ça fait le tour. On est pas mal dans notre heure. On n'est pas prêt même dans le temps. On a tout le temps à faire une heure. Puis, tu sais, le résumé, si j'avais à dire tout ça, c'est que c'est notre responsabilité de faire des choix qui sont plus sains. Puis ça, ben, ça passe par la prise de conscience. Ouais. Fait qu'il y a un côté inconscience qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis il y a un côté, on s'en fout un peu au niveau de notre santé, c'est pas grave. Mais je pense que plus qu'on prend conscience, plus qu'on fait des podcasts qui informent les gens par rapport à ça, plus que c'est facile de faire des choix qui sont sains, qui sont santé et qu'on se responsabilise. Mm. Fait que tu sais, si j'avais à conclure, c'est un peu ça que je m'étais pris en note ici, c'est que est-ce que c'est grave si une fois de temps en temps je prends la petite canne de tomate, si 99% du temps je mange du poulet, du riz et des légumes, enfin même, on s'en fout, tu comprends? Mm. La problématique, et on le répète, puis je pense que ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est ça que je veux que les gens retiennent, c'est l'effet compound, c'est quand tu en prends 12 fois, quand tu es inconscient de ce que tu manges. Exemple, tu prends un wrap, telle affaire, tu rajoutes, tu bois ton Pepsi, ton alcool, ton ça, puis t'abuses, puis quand en plus tu es en surplus calorique, puis tu fais pas d'exercice, puis tu bois pas d'eau, puis c'est tout ça. Fait que c'était juste de faire prendre conscience. Je pense que ça fait le tour du podcast. Très intéressant comme podcast. Bon, j'ai adoré. Ça fait le tour, pas mal?
Ouais, vraiment. Fait que
merci, gang, de votre écoute, comme d'habitude. Puis on se revoit dans un autre podcast. Également, on se revoit au 10e podcast qui va être le dernier de la saison 1.
On a hâte de vous présenter ça. Puis dernier petit point, s'il vous plaît, si vous trouvez que c'est du contenu qui est très intéressant, partagez-le à vos proches, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on se fait développer. On vous offre un gros contenu de belle qualité. On fait beaucoup de recherches pour ça. On vous donne les sources. Fait que s'il vous plaît, faites juste nous faire un partage. Laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify, iTunes, YouTube et tous les autres diffuseurs que vous êtes. Et si jamais vous avez des informations, vous avez des questions ou quoi que ce soit, communiquez avec nous directement sur notre page Facebook. Vous pouvez chercher Clinique Phoenix ou tout simplement Phoenix Clinique Santé. Fait que à bientôt, gang. On se voit dans le prochain épisode.
Bonne journée.